Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Salut, c'est Dany Baillet à Saint-Sevé. Vous êtes bien sur MDM et nous vous proposons une demi-heure de détente et de plaisir au travers de cette émission que nous allons appeler Lougourmandas. Lougourmandas, pourquoi ? Parce que le suffixe « as » que vous connaissez amène toutes les subtilités de la langue gasconne. Par exemple, une can, un chien, une cagnon, un mignon petit chien, une cagnotte, un petit chien, une cagnasse, ben, on se passe de commentaires. Donc je vais vous raconter ce voyage en Chine populaire en 79, dont mon objectif était de traverser le pays, de connaître ce pays, cette vieille culture dont je rêvais d'aller à la rencontre. Et pour ce faire, j'ai pu le faire en deux temps. Tout d'abord grâce à une association, l'Association des Amitiés Franco-Chinoises, qui était gérée par des enseignants, qui m'ont permis de monter un parcours. Et le second, grâce à un échange improbable d'étudiants qui étaient des agronomes à la maison Caussade à Peyrehorade, chez Les Gourgues, qui étaient venus pour étudier les semences de maïs américain Cargill. Donc, me rapprochant de tous ces gens, j'ai pu mettre en place, dans le cadre d'un échange d'étudiants, une organisation en deux temps. D'abord, un voyage d'agrément général, ensuite, une organisation qui me permettait sur place de travailler à la réforme agraire post-révolutionnaire, sachant que ma situation à moi, j'étais étudiant en BTS agricole, je rêvais de devenir paysan, mais il me manquait le service militaire à effectuer. J'étais à l'époque objecteur de conscience dans la droite ligne de Maxime Le Fox-Terrier. Et bien sûr, on m'avait déconseillé fortement de travailler la terre, on m'avait même plutôt incité à participer à des concours de prépa pour des écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, ce que j'avais fait. Donc j'étais déjà dans mon esprit parti de l'agriculture, mais je rêvais quand même toujours de rester dans ce monde. Donc premier temps pour moi, ça a été de mettre en place l'organisation. Première partie, je l'ai fait avec l'Association des Amitiés Franco-Chinoises, comme je disais. Ces gens m'ont permis d'avoir le contact, d'avoir un vol charter, et surtout de m'organiser pour aller à mon point de rencontre, le second point de rencontre, donc celui pour lequel j'ai eu besoin de la présence d'un ingénieur agronome français qui était avec moi, Pierre Viau, qui était à l'époque membre de Paris-Grignon, de l'école Paris-Grignon, qui s'appelle aujourd'hui Paris-Supagro. Et ensemble, nous avons traversé toute la Chine sur le flanc est, seul avec un programme d'État. Et pour traverser ce pays pour aller vers le royaume désormais de Puyi, l'ancien empereur dans la Mandchourie, nous avons dû faire un très long périple qui aurait pu correspondre à l'époque à la longue marche de Mao Tse-Tung. Voilà, donc la Chine, pour donner le contexte, elle est en pleine période de choix. Nous sommes en 79. Il va falloir que l'agriculture, qui fait 85% du PIB et 90% de la population active, se tourne maintenant vers l'industrie. La Chine sent son devenir différent. Ils sont en train de devenir 1 milliard d'individus. À l'époque, 1 milliard, mais maintenant, ils sont 1 milliard 400. Donc, ces choix qui étaient légitimés à cette époque-là ont semblé suivre leur cours. Et donc, il va falloir nourrir ces 1 milliard d'individus, sachant que se pose un problème de géographie, un problème énorme. Seulement 20% du territoire de la Chine est plat, tout le reste est montagneux. Et donc, il va falloir trouver le moyen, lorsqu'on va occuper tout le terrain plat par des mégapoles, celles qui sont là aujourd'hui, et des industries, il va falloir trouver le moyen de nourrir ces gens sur le reste, c'est-à-dire qu'un projet d'État est mis en place, et pas n'importe lequel, pour travailler en basse et moyenne montagne et créer de la culture en terrasse pour faire du riz par submersion en amenant l'eau de la montagne et en bas des légumes tout près des villes. Ce projet, qui s'appelle district type Tachai, correspondait à chacune des communes populaires créées par l'État, sachant qu'une commune populaire de l'époque en Chine correspondrait ici à peu près à un canton, c'est-à-dire un gros kolkhoz, un gros kibbutz pour d'autres, voilà, une culture donc d'entreprise générale, mais aussi et surtout agricole. Voilà, donc le fameux projet Tachai qui me sera proposé plus tard. Écoutez bien le titre, ça parle en soi. Mobiliser tout le parti, développer en grand l'agriculture et mener le combat pour généraliser les districts de type Tachai. C'est le président Hua Kuofeng, successeur de Mao Zedong, qui l'écrit lui-même, document qui me sera envoyé de la librairie numéro 5 de Pékin, fin 78, pour que je puisse m'en enquérir et commencer à travailler dès mon arrivée en Chine populaire. Donc vous voyez, des moyens en grand, de la doctrine en grand, et bien sûr, un projet pour lequel nous sommes accompagnés. Donc le voyage va se passer de la façon suivante, en charter, dans un premier temps Paris-Téhéran, ensuite Téhéran-New Delhi, New Delhi-Karachi au Pakistan, Karachi-Bangkok et Bangkok-Hong Kong, donc la concession alors anglaise hein, jusqu'à 1999. Et puis donc après quelques jours passés sous les Sunlight, nous sommes passés directement en Chine populaire pour arriver à Canton, la grande ville du Sud, où nous sommes attendus donc pour élaborer le programme, bien sûr, de notre cahier de route, mais aussi donc pour mettre en place notre modèle agricole et l'organisation qui s'en suivra. Donc nous avons décidé de prendre la route par le centre et l'est du pays pour, depuis Canton, arriver en Mandchourie et Ouïghourie, donc qui sont aujourd'hui des minorités nationales, et donc dans la grande steppe de Mandchourie, où vit, avec sa suite, l'ex-empereur Puyi, qui avait été déménagé là-bas à l'âge de 8 ans. Le modèle agricole, donc je viens de vous en parler, c'est le district Tachai, ce district type qu'il va falloir, on dirait aujourd'hui, copier-coller, c'est-à-dire développer et laisser en place avec une organisation qui permette de donner à manger aux gens en dehors du cadre des villes qui vont devoir s'implanter dans les zones qui auraient été le plus favorables à l'agriculture. Donc agriculture du riz par submersion, c'est-à-dire qu'on fait des terrasses et on fait venir l'eau de la montagne, on submerge le riz qui est noyé dans l'eau. Voilà, et on produit des légumes sur les environs, sur les bordures. Pour mener ce projet à bien, nous sommes en train de, dans un premier temps, de discuter, parce que ça n'est pas si simple que ça. Il faut se rappeler qu'on est en 79, qu'on n'a pas d'échange déjà inscrit entre les pays, personne ne va en Chine. Et nous sommes là sur le territoire, maintenant il faut trouver des moyens de le faire. On nous délègue donc une dame, qui est une vice-ministre, qu'on nous présente comme une vice-ministre de la province, qui va nous accompagner partout, nous devancer et nous mettre en place tout notre programme. Donc la langue parlée, eh bien, on a deux choix. Premier choix, c'est l'anglais. Très souvent, ça sera l'anglais dans les villes. Et ensuite, pourquoi ? Parce que dans les universités mandarinistes, l'anglais était la première langue en Chine, bien sûr, depuis longtemps. Et par contre, Mao Zedong a créé les universités révolutionnaires du 21 juillet 68, suite à la révolution culturelle. Et pour ces universités révolutionnaires, il n'a pas pris l'anglais, pour une raison simple, c'est que les Anglais, faisant du commerce avec les Indes, à New Delhi, avaient entreposé des centaines de tonnes d'opium qu'ils avaient stockées dans la West India Company, une grosse compagnie des Indes. Et en distribuant, en arrivant aux frontières de la Chine, puisqu'ils ne pouvaient pas faire de commerce, ils ont introduit cet opium en contrebande, qui a déclenché à 1845 la fameuse guerre de l'opium, et tué des millions de Chinois. Donc Mao Zedong, se rappelant de ça, avait voulu éliminer donc l'anglais de ses universités révolutionnaires et avait mis le français, qui lui avait été amené donc à la fin du 19e siècle, par donc depuis 1860 jusqu'à 1898, où il y a eu la guerre des Boxers, par des Français, notamment des jésuites français. Donc ces jésuites ont été massacrés quasiment tous par les Boxers, qui étaient des miliciens révolutionnaires chinois qui ne supportaient pas la présence d'étrangers sur leur sol. Vous voyez que c'est pas de hier matin tout ça. Voilà, donc nous avons donc pu souvent aussi, à la campagne, travaillant dans les fermes, eh bien parler le français de la façon la plus simple qui soit. Alors pour ma part, nous sommes accompagnés, on est précédés et suivis et gérés donc par le parti, bien, via cette déléguée révolutionnaire de la province, qui doit être une dame de la police, a priori, qui s'occupe de nous. Très vite, nous sommes équipés et orientés pour être informés. Voici le programme qui nous est proposé. À l'époque, nous avons un salaire égal entre les cadres et les employés de 30 yuan par mois. Ces 30 yuan sont répartis. 8 yuan pour la location de mon vélo, le 18-828, qui m'accompagnera tout le trajet. 10 yuan pour la cantine de la commune populaire qui me nourrira tous les jours sur la base d'une alimentation au moins de riz plus piment, parfois plus. Et ensuite, 4 yuan pour les cigarettes. Donc les meilleures étaient bien sûr des cigarettes au caramel et à l'opium des opiacés qui étaient fantastiques. Et ensuite, 8 yuan pour les participations aux causes de tout le parti. Donc voilà globalement mon salaire, pas de bénéfice possible, mais ça n'était pas l'idée. Chaque action, bien sûr, est programmée. Et le programme, c'est le programme Tachai dont nous avons parlé, donc développer en grand l'agriculture pour permettre aux gens de manger. Mais ce programme est mis en place, bien sûr, en fonction des situations de chaque village. En dehors du travail, nous pourrons aussi profiter des parcs. On participera à la construction d'immeubles, à des distractions hebdomadaires comme l'opéra populaire qui durait 4 heures avec des cris stridents et qui me sont encore dans les oreilles. Et nous serons bien sûr tenus, ça c'était un peu plus compliqué, d'assister aux exécutions dans les stades. Beaucoup moins drôle. Nous devons aussi être exemplaires. Comme chaque employé chinois, comme chaque travailleur chinois, nous devrons développer en parallèle notre travail et ce que j'appellerais de l'endoctrinement de nos collatéraux. Donc la première journée type se définit comme suit. 5h30 du matin, réveil et gymnastique. Ensuite, lecture de la pensée de Mao Tse-Tung. 6h30, départ sur le site pour travailler. 7h, départ de la journée de travail. Arrêt d'une heure le midi. Alimentation de base, riz plus piment. Parfois, quelques insectes gris, mais bon, c'est assez rare. Et du rat de rizière dans les meilleures communes populaires. Mais ça semble être un peu festif. Le soir venu, nous rentrons au campement prévu à cet effet, c'est-à-dire chez l'habitant, une natte par terre paillée, sur laquelle nous devons dormir. Bon, on n'est pas dans les hôtels 4 étoiles, bien évidemment. Et on peut quand même, c'est un grand privilège, y voir la télé et son programme, c'est le programme du parti, qui diffuse tous les programmes révolutionnaires en cours. Et elle est donnée par l'État, bien sûr, sur récompense, mais dans des cas particuliers, une récompense individuelle, soit une récompense collective pour un groupe de travailleurs, selon toujours les mêmes critères, le travail bien sûr, mais aussi l'association d'idées de endoctriner les collatéraux. Alors nous ferons aussi de la construction de tracteurs et du machinisme agricole sous licence russe, nous ferons de l'entretien du patrimoine, des voies et aussi bien sûr pendant 15 jours de la muraille de Chine, toute la façade est de Luoyang. Je travaille aussi dans de la recherche cosmétique dans une ferme d'études. Et nous avons entretenu aussi les routes et chemins d'accès, logiquement en parallèle avec les excavations de la culture en terrasse. Voici donc l'occupation principale de mon séjour d'échange dans le pays. La réforme agraire post-révolutionnaire. Elle est présentée comme le pivot central du développement des campagnes qui vont devoir laisser la place sur les plaines. Les plaines, rappelons-nous, de 20% seulement pour y construire les futures mégapoles. Ce qui s'est avéré vrai, puisque c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ces mégapoles actuelles ont dû donc obliger à transférer des compétences et l'activité de l'agriculture vers une bonne partie l'industrie, sachant que l'agriculture est restée très très minoritaire aujourd'hui. Donc la Chine, elle sait déjà qu'elle sera la manufacture du monde. On se rappelle qu'Alain Perrefitte a écrit « Quand la Chine s'éveillera ». Et tout ça était déjà prévu.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton détour. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes.
Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé Châlons-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan. La présentation du projet de district de type Tatchai est enfin en cours. À l'exclusion des 20% de territoires prévus pour y mettre les villes, va se mettre une implantation de cultures en basse et moyenne montagne en place pour y dessiner des terrasses et accueillir des plantations de riz cultivées en submersion grâce à l'eau naturelle venue des montagnes. Une idée géniale, confortée par la plantation de légumes en bas des pentes, dans les fossés, des pastèques ou certaines catégories de citrouilles que les gens pourront consommer en même temps. Le but, il est simple, fournir l'aliment de base à la Chine qui est en train de devenir 1 milliard d'individus. Donc rapidement, nous devons être opérationnels et l'ingénieur Pierre Vouillot, avec qui j'ai voyagé donc tout ce parcours, donc qui est ingénieur de Paris Supagro, prend les choses en main. Il nous faut marquer à la chaux de longues lignes parallèles de 2,50 m, entre lesquelles la bande de dessus est décaissée pour occuper un espace plane qui sera travaillé, planté et irrigué par submersion. Ça semble évident, mais la tâche est énorme. Pour la mise en place et selon la volonté du programme d'État Tatchai, nous allons mettre en place une organisation à trois niveaux pour installer, suivre et développer ce programme. Pour ce faire, nous aurons besoin de beaucoup de monde. La première tranche, près de Canton, ville du Sud, nécessite, d'après nos calculs, la venue de 10 000 personnes pendant 20 jours. Décision pas si simple à proposer. Mais aucun problème pour notre accompagnatrice d'État, qui prend son plus beau téléphone et appelle au rassemblement. 48 heures après, aussi incroyable que ça puisse paraître, comme dans un film, une fourmilière, un peu hagarde, glisse le long de la voie rurale, pelle et pioche sur le dos. Nous sommes ébahis et quelque peu interloqués par cette impressionnante armada de paysans piocheurs. Après la gymnastique à 5h30, notre accompagnatrice entame une théorie sur le vieux Yukong déplaçant à la montagne. Je vous la compte en quelques secondes, le vieux Yukong pioché au pied d'une montagne majestueuse et les voisins qui sont passés lui ont dit « Mais Yukong, tu vas mourir !» Et il dit « Mais non, car j'ai trois fils et après moi, mes fils piocheront et leurs fils et bientôt cette montagne, nous la renverserons et nous construirons des cultures dessus. » Donc, cet endoctrinement fait, les pelles et pioches vont bon train et l'objectif sera atteint pour nous assez facilement. Il nous reste à nommer les cadres d'État pour gérer la suite. Nous faisons une proposition, mais ici se posent les factions opposées d'avant et après Révolution, rappelez-vous l'université mandariniste, et aussi les gens, les paysans provenant de l'université du 21 juillet, pour laquelle Mao Tse-Tung a décidé pour chaque 3 années de travail à la ferme de donner le diplôme de Master of Arts, c'est-à-dire à peu près ici le baccalauréat, et pour 3 ans de plus dans une ferme, dans une usine, le diplôme équivalent à une licence qui permettait d'être cadre du pays. En tout cas, notre succès est total et la confiance, n'excluant pas le contrôle continu de notre chef, bien sûr, s'installe peu à peu. Nous commençons à donner notre avis et participer aux prises de décision, de loin bien sûr, mais quand même. Au départ, comme à l'arrivée du projet, ce sont les enfants qui nous chantent des chants révolutionnaires, souvenirs bien sûr très très forts. Chaque étape sert de relais et de travail pour la suivante et nous renouvelons notre programme au fur et à mesure sur le territoire. On dirait qu'aujourd'hui, nous avions fait du copier-coller de programme d'une commune populaire sur une autre. À plusieurs reprises, nous travaillons aussi à d'autres tâches, comme les premières constructions d'immeubles. Après notre journée, le soir, nous passions en vélo devant des constructions en bambou de 2 voire maximum 3 étages liées à la paille de riz. Et là-dessus, une fourmilière s'activait à porter des seaux de mortier, quilles, des parpaings. Et nous avons vu monter et participer à monter les premiers immeubles, qui ne sont pas les tours des mégapoles actuels, mais qui étaient les premiers immeubles de l'époque, en 79. À Shanghai, là, j'aurai le privilège, en allant travailler dans un souterrain anti-atomique, à 14 mètres tout d'abord pour stocker 3 semaines de vivres, et ensuite à 80 mètres sous terre où se disposait une seconde ville, avec école, dispensaire d'hygiène sociale, caserne, j'en passe et des meilleurs, le process étant le suivant. Il fallait bloquer, non pas l'ennemi, mais il était déjà nommé, les Russes, en cas d'attaque, au centre de la ville, où se situaient les centres d'intérêt, partir par ces souterrains et sortir à 42 km en étoile pour encercler les Russes au centre de la ville. Tout ça m'a été expliqué sur un synoptique à l'époque. Et j'avoue que j'étais assez impressionné. J'imagine que chaque grande ville avait de toute façon le même équipement. À 14 mètres étaient stockées 3 semaines de vivres que nous renouvelions toutes les semaines, dont nous renouvelions une semaine chaque semaine, pour pouvoir tenir le coup sous la terre. À Ouzou, c'est une usine de tracteurs à chenilles sous licence russe qui nous accueille. Bon, un peu de bruit parce qu'on n'a pas de casque, on a des outils rudimentaires, mais on démonte du vieux et avec l'art des Chinois, car ils sont aussi forts dans le raffinement, dans l'art que dans la cruauté, tout le monde le sait, nous avions démonté, remonté, je vous dirais moi un peu à l'africaine, des vieux matériels pour, avec plusieurs, en faire un peu moins, mais de ces bonnes qualités pour permettre de travailler. À Loyang, une grande ferme expérimentale dont j'ai encore plein d'images en tête, nous ouvre les portes. Elle va servir à développer l'agronomie, mais aussi la cosmétique, donc certainement qui ne sera pas utilisée tout de suite en Chine, peut-être maintenant, mais pas à l'époque. Et j'ai un souvenir extraordinaire, c'est un monsieur qui nous a montré comment gaver des canards en 79, avec une méthode inverse à la nôtre, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous prenons du maïs, nous le mettons dans la gaveuse, que nous mettons dans le cou du canard, et nous faisons descendre le maïs dans le cou du canard. Là, il y avait un tuyau qui dépassait d'une énorme marmite avec une pédale, on en mettait le canard dans le tuyau, et on appuyait sur la pédale pour lui faire gober le maïs. C'était assez surprenant, voilà, sachant que si j'avais pensé à ça à l'époque, peut-être que j'aurais pu devenir riche, être le premier à faire du maïs à la purée. Ça, c'est pour l'anecdote. En plein séjour, on me signale tout d'un coup la présence d'un Français et d'un Hongrois, ce Français souhaitant me voir. Je vais bien sûr à sa rencontre et la surprise. Il me raconte la guerre des boxers en 1898 et lui est arrivé peu après. C'était un jésuite français qui avait vécu 52 ans de Chine, qui se prénommait Père Jean. En discutant avec lui, il me dit « Mais ton accent est celui du Sud-Ouest ». Je lui dis « Oui, oui, vers Bordeaux ». Il me dit « Mais moi aussi ». Alors allant plus loin, il me dit « Mais vers où ?» Je dis « Vers Mont-de-Marsan ». Il me dit « Moi aussi ». C'était un gars qui était né, tenez-vous bien, à 1 kilomètre de chez moi, à Montsouet. Voilà, et donc des histoires absolument incroyables, comme quoi des fois le monde est petit. Il m'a fait, j'ai eu la chance d'être avec lui, qui avait une immense culture de la Chine. Il m'a fait, outre connaître plein d'histoires, rencontrer plein de gens, donc notamment des médecins aux pieds nus qui soignaient les petites filles, qui faisaient les petits pieds aux petites filles, enfin, des choses assez incroyables que je n'aurais pas vues sans lui. Et il m'a fait aussi déguster plein de petites choses, dont il avait un petit vivier de petits serpents qui, sur le grill, se sont avérés avec des épices absolument délicieux. Et par contre, il m'en a fait goûter un gros courbouillon que je crois que j'ai toujours encore en travers de la gorge. Je n'ai jamais pu l'avaler. Bon. Comme quoi, bon, des fois, l'anecdote a son bon. Passant de là, je suis allé à Xi'an, une grande ville centrale. Et là, j'ai absolument tenu à marcher 2 jours pour rencontrer des peintres paysans. Ces gens qui serrent aussi les pieds des petites filles, mais par contre se servent de mélange de couleurs de plantes végétales pour obtenir, on le savait pour le bleu indigo par exemple, mais des verts, des jaunes, des marrons, à partir desquels ils créaient des peintures sur les façades ouest exposées des maisons, de leurs maisons, qui se lavaient après chaque zone de mousson ou de pluie, et sur laquelle ils repeignaient des scènes essentiellement d'émulation au travail, des scènes de la vie, des scènes du parti bien évidemment. Mais j'étais ravi de voir ça, ils m'ont montré bien sûr tous leurs secrets, que je n'ai évidemment pas retenu, pour fabriquer ces couleurs, c'était vraiment, vraiment passionnant. Ensuite j'ai travaillé 10 jours à la réfection de la façade est de la muraille, au-delà de Xi'an, avec des gens très très sympas, beaucoup parlaient très très bien le français. Là aussi ça a été des visites chez des gens, chez des artisans, qui m'ont montré toute leur capacité dans l'art notamment du maniement du bois, du bambou, de petites fibres avec lesquelles ils faisaient des petits objets d'art, des choses absolument remarquables, et surtout aussi de la peinture, qui m'a donné une idée de leur capacité à aller loin dans l'art, mais vraiment de façon extrêmement raffinée. Donc de là, nous sommes partis pour Pékin. Pékin, c'était différent, c'était la grande ville. Nous commençons à voir depuis le train sur lequel je suis amarré avec une chaise, les premiers immeubles pas très hauts de 2-3 étages maximum, construits sur les échafaudages en bambou liés de paille de riz, et l'agriculture autour, encore, à l'époque. Là-dessus, nous reprenons les chantiers. Nous avons visité des sites exceptionnels, la cité interdite bien sûr, des jardins privés de l'ancien empereur, des centres de recherche dans l'atome, comme dans l'agriculture, comme dans la cosmétique, comme dans l'armée, des bases militaires, et bien sûr des pagodes, comme la pagode de la Grande Oie, magnifique. Et nous avons été reçus au palais des minorités nationales avant d'aller y visionner des films sur le planning familial, où on avait déjà vu aussi quelque part des films au palais des mandarins, mais pas du tout les mêmes, sur le planning familial, nous montrer au moment de la volonté de l'État de faire de la famille monoparentale, où les enfants étaient jetés au cochon, enfin des films absolument horribles. Voilà, qui nous remettaient en tête les exécutions et des choses de ce genre, dont rien d'extraordinaire. Donc les exécutions, ce sera dans un stade, et ce grand stade, avec l'accord de l'État, nous avons été, bien sûr, assistés à ces exécutions deux fois. Donc les gens étaient amenés, les condamnés, et dans les haut-parleurs, on entendait les cris stridents du commentateur qui expliquait sans doute les fautes de ces gens, qui étaient attachés à une planchette, pieds et mains à une planchette, et exécutés à genoux. C'était, j'avoue, un moment particulièrement pénible. Bon, nous l'avons fait que deux fois, mais c'était leur volonté de nous soumettre à ça, et ça a été assez difficile. Donc, avec l'accord de l'État, nous partons sur le terrain le plus beau du monde, amarré au wagon vers l'immense Mandchourie. Et pendant deux jours et demi, ce train très lent nous fait traverser des moussons et des paysages absolument incroyables. Nous partons vers la Mandchourie, une steppe un peu engourdie, où nous savons que vit l'empereur Puyi, avec le secret espoir bien sûr de le rencontrer, ce qui ne se fera évidemment pas. Il ne faut pas oublier que l'empereur Puyi est parti là-bas à 8 ans, qu'il a environ 13 ans au moment où nous y sommes. Et donc nous avons pu rencontrer par contre les minorités nationales qui nous avaient reçus à Pékin dans leur palais. Donc Mandchourie, c'est plutôt la steppe, et Ouïghourie à côté, on le sait, c'est toujours d'actualité. C'est la misère et c'est les ressentis de la Chine communiste qui en veut à cette peuplade, donc de gens qui avaient aussi des musulmans parmi eux, mais pas que des musulmans, et qui ont toujours été persécutés. Puis enfin, nous rentrerons à Pékin avec un peu la satisfaction du devoir accompli et des souvenirs plein la tête. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas le matériel actuel. Donc moi, j'écrivais à mes parents tous les 15 jours à peu près. Mais je n'avais rien pour faire des photos qu'un petit appareil Instamatic dont j'ai gardé une cinquantaine de petits clichés carrés. Et naturellement, c'est bien peu en rapport de tout ce que j'avais pu voir. Mais bon, c'était comme ça. Et de toute façon, nos souvenirs, on les a plein la tête. Et on avait une idée, c'était de les partager. À notre retour, bien sûr, nous avons eu des discussions ardues avec l'Association des Amitiés Franco-Chinoises qui nous demandait de faire des présentations et donc de donner un avis, à notre avis, un peu trop enjolivé, un peu trop orienté. Donc nous avons choisi de ne pas le faire. Et de mon rêve de paysan, ben voilà, après ce voyage dans la Chine populaire communiste, sous l'égide du parti avec le badge de l'ambassade chinoise, ben, j'ai intégré l'École supérieure de commerce de Bordeaux, puis la banque, française et étrangère, au pluriel, avant de revenir aux énergies nouvelles, comme quoi personne n'est parfait et qu'un parcours peut en accompagner un autre. Heureusement que mon rêve d'être paysan s'est quand même réalisé, car ce que j'ai rêvé, c'est mon fils qui l'a fait, et je trouve bien fait, ça s'appelle l'agriculture poétique. Voilà, donc à bientôt sur nos ondes, sûrement pour en parler.
Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant, à qui sourit la vie. Marche sur l'eau, évite les péages, jamais.